Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, mobile, PC, console, etc., etc. Je suis Patrick Béja, votre hôte, et j'espère que vous m'excuserez une incohérence plus poussée que d'habitude parce que je reviens des États-Unis hier et je vous avoue que je suis encore complètement décalqué par le décalage horaire. Donc je risque de ne pas être très brillant sur cet épisode. Heureusement, pour relever le niveau, nous avons Jean-Noël de Papa à quoi tu joues qui se joint à nous. Comment ça va, Jean ?
Bonjour, ça va très bien malgré que je sois autant fatigué que toi. Donc voilà.
Mais dis-moi, c'est voilà. Une équipe de choc là qu'on forme aujourd'hui.
Exactement, il manque plus que Nounours de Bonne Nuit les petits et c'est voilà.
Bon, écoute, on va essayer quand même de faire un boulot à peu près correct sur les news cet épisode. On va vous parler un petit peu de la Nintendo Super NES classique, de Tencent qui limite le temps de jeu, de Honor of Kings pour protéger les petites enfants en Chine, de IO Interactive, etc., etc. Il y a plusieurs choses dont on va vous parler. Et je vous propose qu'on commence donc avec la Nintendo Super NES classique qui en même temps nous donne l'occasion de parler de la nouvelle console d'Atari et même de Sega Forever, même si ça c'est pas une super réussite. donc, à la surprise d'absolument personne, et à vrai dire il l'avait même déjà annoncé, Nintendo a confirmé les détails de la Super Nintendo classique qui sera disponible à la fin du mois de septembre. Avec 21 jeux pour un prix de environ 100 €, et comme avec la Nintendo classique. Donc pour ceux qui savent pas, la Super Nintendo classique, c'est une Super Nintendo, une mini Super Nintendo qui inclut 21 jeux en l'occurrence et qui peut se brancher sur les télés modernes en HDMI, etc. et qui inclut deux manette avec, donc c'est pour les rétro gamers. Il y avait eu la même opération avec la Nintendo, donc la NES classique à l'époque, il y a un an. Voilà, c'était la NES Mini. Et c'était il y a un an et elle s'était vendue comme des petits pains. Elle était en rupture de stock partout. Donc là, ils vont nous refaire le coup avec cette Super Nintendo classique. Deux manettes, donc un petit peu plus cher, moins de jeux, mais des meilleurs jeux, deux manettes. Jean, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
J'ai pas été hypé. Alors, voilà, le truc, c'est que ça fait un bel objet. Donc, c'est pour les collectionneurs. D'autant que là, si tu veux aller à fond dans le truc, eh ben, t'as la version japonaise, la version américaine et la version européenne. Donc, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Super NES avait des formes et des noms différents selon les régions du monde où on était.
Très moche aux États-Unis d'ailleurs, cette forme carrée là.
Moi à l'époque j'aimais bien. Ouais. Okay, mais okay. À l'époque, enfin tu vois, j'avais 12 ans, j'avais pas forcément bon goût alors. au-delà de ça, voilà, moi j'ai du mal à mettre de l'argent là-dedans en fait, si tu veux, parce que le catalogue de jeux qui est limité, qui est absolument pas inintéressant. Hein. Ce sont des bons jeux, mais
ouais, pour donner une idée, il y a quand même tout, enfin une bonne partie des bons jeux de cette console. Il y a Mario Kart, Mario World, Zelda, Star Fox. Il y a même Star Fox 2 qui est inédit en sortie, mais qui était disponible, qui était disponible en piratage, on va dire.
Là, c'est ça.
Earthbound, enfin Kirby Superstar F-Zero, Super Castlevania 4, Mario RPG, Super Metroid, Yoshi's Island, enfin, j'en cite qu'une partie là. Donc il y a vraiment une grosse tonne. C'est pas du remplissage, quoi.
Non, non, c'est ça. Mais au-delà de ça, ce qui m'a gêné sur la NES Mini et sur la Super NES classique, c'est que tu peux pas rajouter de trucs à toi. C'est un système fermé. Voilà, moi, en toute honnêteté, je sais que c'est pas bien, hein, mais en toute honnêteté, ma collection de jeux émulation, voilà, c'est, je fais le taf, quoi. J'ai pas besoin de ça et je commence avec ma fille à jouer justement à lancer l'émulation Super NES et elle commence à bien apprécier et voilà.
Bah à vrai dire, pardon, fini.
Vas-y. Non, bah, l'aspect collection, oui, je vois l'intérêt. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un device de jeu ou un device de collection, quoi?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que, bon, alors, quelles que soient nos appréciations, elle se vend comme des petits pains. Elle est déjà en rupture de stock, en précommande de partout. Donc, voilà, même s'ils ont promis d'en produire plus que pour la NES classique, parce que il y en avait pas assez qui étaient produites. C'était de la folie de rupture tout le temps. Moi, je suis un petit peu comme toi. Je suis pas hyper client de ce genre de truc. C'est surtout que, j'ai pas envie d'aller brancher une machine. J'ai déjà genre j'ai plus 3 trucs branchés sur ma télé. J'ai pas envie d'aller brancher en plus une NES qui va être utilisée. J'ai l'impression que je l'utiliserai une demi-heure, un truc comme ça.
Ah oui, oui, c'est ça. C'est juste pour faire un kiff de Madeleine de Proust et
voilà. Et comme le disent beaucoup de gens, je préférerais largement pouvoir acheter ces jeux sur ma Nintendo Switch et bon, idéalement les avoir, les garder d'une machine à l'autre, parce que j'en ai déjà acheté certains sur d'autres machines. Mais bon, ça c'est une plainte qu'on a envers Nintendo depuis longtemps. Mais oui, plutôt que d'avoir une machine indépendante, je préférerais largement pouvoir acheter les jeux sur mes consoles existantes, enfin ma console Nintendo existante. Donc ouais,
après,
je suis
si
un petit peu
vraiment
comme
un puriste,
ça, comme toi,
si t'es vraiment un puriste des câbles à brancher, enfin un puriste de l'époque, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais enfin on était beaucoup comme ça, alors t'avais ta console qui était branchée derrière en Péritel et tes parents la débranchaient constamment parce qu'il y avait les fils qui traînaient, donc voilà, et donc tu passais le bras derrière pour débrancher, rebrancher.
Oui, je me souviens de cette époque aussi, si tu veux.
Voilà, donc on peut retrouver cette sensation.
C'est ça,
aussi,
c'est
voilà.
Ça. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir hyper envie de retrouver cette sensation là, mais oui, je sais qu'elle a un succès fou et que l'ancienne avait un succès fou, et s'ils font une Nintendo 64 mini, elle aura un succès. C'est fou aussi, mais enfin, je comprends l'intérêt pour Nintendo évidemment, mais j'avoue que si on va un petit peu loin, je comprends pas vraiment les acheteurs. Enfin, si, je les comprends parce que, comme toi, l'aspect collection, mais enfin, peut-être que c'est des gens qui veulent absolument jouer. Enfin, j'imagine pas que les gens jouent longtemps sur des machines comme ça, mais peut-être que je me trompe.
J'ai un copain qui l'a acheté l'hiver dernier. Voilà, il dit oh, j'ai joué, c'est rigolo, et puis voilà, ouais. Du coup elle est là, le décor.
En même temps, bon, c'est une centaine d'euros. Peut-être que tu te dis ça va me faire un truc sympa pendant les vacances, pendant les vacances d'hiver. Et puis
ouais,
j'ai
un
pas
cadeau
forcément
d'anniversaire.
Besoin. Voilà, c'est ça. J'ai pas forcément besoin d'y jouer pendant 10 ans ou pendant même les 3 prochaines années pour que ça vaille la peine. C'est un truc qui va me faire quelques soirées sympas. Et puis je le garde quelque part au cas où j'en ai rebesoin plus tard. Mais oui, c'est pas forcément les gens qui l'achètent se disent pas forcément c'est la console. Enfin, évidemment. C'est pas la console sur laquelle ils vont jouer pendant 2 ans, quoi. Si, je pense qu'ils le comprennent aussi, mais bon. Et justement, il y a un autre constructeur qui est en train de travailler un projet compliqué, hein. Non, mais je vous dis, c'est dur. J'ai 2 émissions à enregistrer aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû faire les choses comme ça. Mais bref, Atari est en train de préparer une Atari Box. Alors, On sait pas très bien de quoi il s'agit. Ils ont annoncé qu'ils revenaient dans le hardware. Alors, pour que les gens se souviennent, Atari est une marque qui a été vendue, revendue, repassée de main de partout. Et donc aujourd'hui, la société qui s'appelle Atari, je sais même plus qui avait racheté la marque et s'est renommé Atari. Et donc la Atari Box, il y a un tout petit teasing avec un look un petit peu old school, mais en même temps ils disent on va faire une machine qui a une architecture PC. Donc tout ce que tout le monde se disait, c'était bah oui, ils vont faire une machine comme la NES Mini ou comme la Super NES Mini. Mais là on a de quoi se poser un tout petit peu la question. Et du coup je me dis, alors oui, un truc classique, genre avec les jeux classiques, Ça se vendrait forcément un petit peu, même si beaucoup moins que Nintendo. Mais est-ce qu'ils auraient l'audace d'aller faire une machine différente, enfin originale ?
Moi déjà, cette annonce-là, heureusement qu'elle a été pas faite le 1er avril, parce que pour moi, voilà.
Il y a de la nostalgie sur Atari quand
oui.
même.
Bah oui, mais comme tu le disais, comparé à une NES où voilà, tu fais pas le poids, t'es plus dans un truc de niche chez Atari. Tu dis Atari aujourd'hui, t'as 100 personnes devant toi, tu dis Atari, il y en a 20 qui vont lever la main, quoi. Et je sais pas bon. D'où ça sort. Je pense pas qu'ils fassent vraiment une nouvelle console comme tu dis, parce que ça, enfin.
Ah bah oui, venir s'attaquer à Sony et Microsoft et Nintendo, oui. ça serait compliqué, quoi.
Et est-ce que c'est le bon moment de sortir une nouvelle console, parce que on avait déjà des doutes sur sur l'éventuelle existence d'une nouvelle génération après la PS4 et la Xbox One. D'où ça vient? Bon,
peut-être un concept intéressant, original. Oui, non, j'y crois pas trop. Moi, je pense aussi que ça va être un truc classique avec des jeux. Enfin, ils vont nous ressortir les Pac-Man et les.
Ouais, pour moi, c'est une SNES Mini ou une NES Mini, ouais. mais pour les barbus.
Et ouais, en même temps, tu vois, c'est aujourd'hui Atari est pas une grosse société et du coup, même s'ils sont pas obligés d'en vendre autant que
Nintendo.
Je suis en train d'essayer de regarder qui possède Atari. Ouais, c'est bien ça, c'est Infogrames hein, qui avait racheté Atari et qui s'est renommé. Mais oui, donc ils n'ont pas besoin d'en vendre des centaines de milliers comme Nintendo. Ils peuvent en vendre quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers et ça ferait quand même leur affaire. Mais ouais. Bon, oui, ok, pourquoi pas. On pourra tous aller jouer à E.T. Qui était, comme tout le monde le sait, un excellent jeu sur
Mais tu sais que je le possédais, ce jeu.
Ah mais moi aussi, mais tout le monde, pas tout le monde l'avait acheté.
Non, moi je connais personne dans mon entourage qui possédait.
Qui avait acheté. Oui, moi je crois que je l'avais. Hein. Ça me rappelle quelque chose. Et c'était effectivement pas très bon. Et puis sinon, il y a Sega qui a lancé son Sega Forever, qui est une application qui permet de télécharger et de jouer gratuitement à des jeux Sega. Moi, quand je vois les jeux Sega, je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, ça a l'air très très mal foutu techniquement, cette application. C'est un truc fait à la va-vite. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux, au-delà même de Sonic, il y a, je sais pas, Altered Beast. Je me souviens plus des.
Kid Caméléon, non ?
Voilà, il y a Kid Caméléon. Moi, c'était pas ma passion, mais des trucs genre le truc de
Je sais pas.
Au-delà de Outrun, tu vois toute cette époque Afterburner, le Space Harrier, voilà, c'est le nom dont je me souvenais plus. Enfin, il y a plein de jeux comme ça, mais c'est mal exécuté. Mais en même temps, tu vois ce que ça m'évoque, cette idée, encore plus que ceux dont on parlait, genre j'ai pas envie d'avoir une boîte en plus pour la brancher sur la télé, etc. C'est que on revient toujours au même problème. Il y a tellement de jeux auxquels on a envie de jouer en ce moment. J'ai pas du tout le loisir et le temps d'aller me replonger sur, Castlevania X par exemple, qui est un jeu que j'ai adoré, que je garde dans ma mémoire comme un truc mémorable. Je vais pas aller au-delà de 10 minutes dessus pour voir comment ça marche. Je vais pas refaire Castlevania, quoi. Là où Shadow of War qui arrive dans 2 mois, quoi.
Voilà, c'est des jeux qu'on a déjà fait, qu'on a déjà fini.
Qui tiennent plus aujourd'hui, quoi.
À part
Super Mario World et Zelda 3.
Non, mais Sonic, ça tient bien.
Vrai qu'il y en a qui tiennent, en fait. Sonic. Je retire ce que j'ai dit, oui.
J'ai quand même téléchargé Sonic parce que déjà je voulais voir comment étaient foutus les Sega Forever. Donc c'est absolument ce à quoi je m'attendais. Tu fais un niveau, t'as une pub, c'est
mais tu peux les acheter, non? C'est free to play, mais tu peux payer pour le débloquer, donc
ouais. Et du coup, à ma grande surprise, ces apps étaient compatibles iOS TV. Elle s'est installée du coup automatiquement sur mon Apple TV et j'y ai joué sur mon Apple TV et j'ai été agréablement surpris de prendre plaisir à y jouer juste avec la Siri Remote là. Et alors c'est pas un modèle d'ergonomie etc, mais pour Sonic ça suffisait et pareil ma fille était à côté et du coup elle a pris plaisir à me voir jouer. Je sais pas pourquoi les pubs avaient disparu sur la version Apple TV et c'était chouette. Je dis pas que je vais y passer du temps, mais j'y ai pris plus plaisir à jouer sur mon Apple TV, sur mon vidéoprojecteur, tout ça, que sur mon smartphone où t'as tes gros doigts tout gras sur ton écran et qui font que ton Sonic il bouge pas bien, quoi.
D'accord. Ouais, écoute, du coup, effectivement, pourquoi pas, si c'est pas trop mal foutu techniquement.
Non, c'était pas vilain du tout, c'était agréable. Je te dis, hein, c'est pas un modèle de précision parce que y jouer à un doigt, c'est pas simple, mais ça se laissait faire. J'ai fait le premier monde, je suis allé jusqu'au deuxième monde et c'était plaisant.
D'accord. Bon, écoute, comme quoi, je disais du mal de Sega Forever, peut-être que c'est pas si pourri que ça, en fait. vous pouvez télécharger gratuitement donc pour tester. Du coup, il n'y a pas de raison de se priver. Bon, donc voilà, c'est un petit peu la partie old school de cet épisode. Bon, moi, je suis pas 100% convaincu, mais chacun trouve son plaisir là où il le trouve. Hein. Il n'y a pas de raison de se priver si c'est un truc qui vous plaît.
Non, puis il y a une grosse communauté rétro qui est présente et qui avec des puristes ou des moins puristes, mais
tu parlais de d'émulation. Moi, je suis à peu près convaincu que les trois quarts des gens qui vont aller se jeter sur une NES Mini, c'est des gens qui ont déjà un émulateur avec la plupart de ces jeux. Donc, c'est des gens qui aiment vraiment ce genre de truc, quoi.
Ouais, complètement.
Je l'évoquais en introduction, Tencent, la société, l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, vous irez voir tout ce qu'ils gèrent, c'est assez impressionnant. Ils ont, suite à une certaine pression du public, voire peut-être même du gouvernement en Chine, vont mettre en place un système de limitation de temps de jeu sur leur jeu mobile principal, qui est un MOBA sur mobile, qui s'appelle Honor of Kings. C'est hyper hyper populaire comme jeu. C'est vraiment le succès, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de faire le truc. En Chine, c'est celui-là qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros succès des MOBA en mobile. Donc c'est le League of Legends des mobiles, en tout cas là-bas. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont limiter le temps de jeu à 1 heure par jour pour les enfants de 12 ans et à 2 heures par jour pour 1 heure par jour pour 12 ans et moins, 2 heures par jour pour 18 ans et moins, et les enfants de 12 ans et moins pourront plus se loguer après 9 heures du soir. Donc, au-delà des questions de est-ce que les enfants vont donner leur âge dans l'app, est-ce qu'ils vont créer plusieurs apps plusieurs comptes pour pouvoir jouer plus d'1 heure par jour, etc. Bon, ok, ça on connaît tous ces problèmes. Puisque t'es là, Jean, moi je voulais te poser la question. Pour ceux qui savent pas, tu es prof dans un collège et t'es très impliqué dans la vie académique de ton collège. Ça nous donne l'occasion de te poser la question. Est-ce que c'est un souci au collège, l'utilisation des smartphones, bon, on va parler des jeux spécifiquement, mais est-ce que c'est un souci et comment est-ce que vous gérez ça, vous ? Je suis très curieux.
Bah, alors déjà, vu qu'on est en Chine, c'est plus les collèges, c'est les usines, hein, c'est ça ?
Oui, un petit peu.
Non, en fait, c'est assez simple. Au collège, c'est même très simple. Au collège, la tendance générale, c'est interdiction pure et simple du smartphone.
Parce qu'il y avait trop d'utilisation ou les gens les sortaient pendant les...
Principe alors... de précaution.
Mais je veux dire, excuse-moi, ça fait longtemps que je suis pas allé dans un collège, mais du coup, ça veut dire que les enfants les sortaient pendant les cours,
Non, c'est beaucoup plus bête que ça. Tu as dans l'éducation nationale un principe par rapport à l'établissement maternel, école élémentaire, collège et lycée. Et tu as tout un pan de la technologie numérique qui est régi par ces strates. Par exemple, en maternelle, absolument interdiction de smartphone, de Wi-Fi et de technologie sans fil. En école élémentaire, tu peux avoir de la technologie sans fil, donc du Wi-Fi, mais absolument pas branché en permanence. Pour le collège, la technologie sans fil, c'est un flou. Et pour le lycée, bon...
Qu'est-ce que ça veut dire absolument pas branché en permanence ? Je comprends pas.
En fait, en école élémentaire, tu peux avoir, par exemple, une classe de tablette, mais tu n'allumes ta borne Wi-Fi que quand tu te sers de ces tablettes.
D'accord. Donc ça, c'est des questions de santé, du coup, j'imagine.
Exactement.
Ah oui, d'accord.
Et les limitations par rapport au smartphone sont les mêmes. C'est par rapport aux précautions de santé. Donc, c'est une vaste blague, hein, parce que les gamins, leur téléphone portable, ils l'ont dans la poche et il est allumé. Personne se leurre et il n'y a pas de volonté d'apprentissage, si tu veux. Nous, on est quelques-uns à vouloir se battre pour justement qu'il y ait une éducation à ça. Et j'essaye de le faire, alors parfois de manière cachée, parfois avec l'accord de ma direction, j'essaye d'apporter cette culture de votre téléphone ne sert pas qu'à faire du snap, ne sert pas qu'à vous envoyer des photos, on peut aussi travailler...
Excuse-moi, avant qu'on parle des solutions, souviens-toi que les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas la situation, donc est-ce que tu peux nous expliquer... Quelle est la situation quand tu rentres dans une classe avec les élèves qui utilisent leur smartphone ou pas ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi est-ce que on se dit est-ce qu'il faut interdire ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut interdire ? Comment ça se passe, quoi ?
Donc, en l'absence de toute réglementation et bon sens, là à l'heure actuelle, c'est interdit. Maintenant, quand
interdit,
on
ça veut dire qu'ils peuvent l'avoir dans la pièce, mais ils peuvent pas le sortir. Mais ils l'ont dans la poche allumée. C'est ce que tu disais.
Non, théoriquement, il est éteint. Théoriquement,
ah, d'accord, ok, oui, c'est ça.
Et mais personne ne se leurre. On sait très bien qu'ils l'ont dans la poche et qu'il est allumé. Seulement, personne n'a le droit d'aller dans leur poche pour l'éteindre. Maintenant, quand on les entre guillemets, quand on les chope avec, c'est à 90% du temps, ils font du snap. Donc, ils parlent entre eux, même si ça m'est déjà arrivé, même si c'est pour parler à la personne d'à côté.
Ouais, d'accord. Donc, et du coup, quand tu le chopes, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe ? Tu lui dis, bon, ça suffit, éteins, ou tu lui prends le téléphone pour l'heure, ou qu'est-ce qui se passe ?
Dans le temps, on pouvait confisquer. Il s'est avéré qu'on n'avait plus le droit. Donc, maintenant, c'est signalé, donc, un carnet de correspondance, on fait un mot, et c'est signalé aussi à la vie scolaire ou à la direction, et après, c'est les parents qui sont, on peut aussi le mettre sur le bureau jusqu'à la fin de l'heure, on est un peu borderline, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc.
Tu veux pas le confisquer pour l'heure?
Le mettre sur le bureau. Sur le bureau de l'enseignant et
D'accord, donc tu peux le prendre et tu le mets sur le bureau de l'enseignant et il le reprend à la fin de l'heure, quoi.
Ouais, mais c'est borderline. Ah. C'est pas donc parce que c'est de la propriété et mais à partir du lycée ils sont beaucoup plus libres, il y a beaucoup moins de réglementation et ils sont libres d'utiliser leur téléphone du moment que ça ne dérange pas le cours. Et donc c'est là
ça veut dire que tu peux être en classe en train de faire un truc. Enfin, t'es censé suivre le cours quand même. Ça veut dire quoi? T'es libre d'utiliser le téléphone si ça dérange pas le cours? Ah, peut-être pour faire un SMS rapide.
C'est ça.
Si t'as... Ah oui, d'accord. T'es pas censé être sur ton téléphone en train de faire autre chose, quoi.
Exact. Ouais. Voilà, c'est ça.
Mais ça, c'est impossible à réguler, quoi.
Mais oui, exactement. Mais au lycée, pour aller quelques fois au lycée, quand tu, je veux pas faire mon vieux con, hein, mais le midi quand tu passes et que tu vois tous les élèves dans l'atrium, ils sont tous le dos rond sur leur téléphone, quoi.
Mmh. Ils sont tous sur c'est du Snapchat, c'est même pas
pas forcément,
du
pas
jeu
forcément.
Vidéo. Parce qu'on parle de jeux vidéo quand même. J'aimerais bien que aller faire contrevenir aux règles et être d'horribles jeunes qui font moins bien les choses que nous à l'époque, moins qu'ils jouent à des jeux, pas qu'ils fassent le Snapchat débile.
Donc ouais, alors pour les jeux, il y a Clash Royale et il y a Football Manager ou un truc comme ça.
Mmh. Ouais. Donc ils passent leur temps dessus, quoi.
Alors, ils passent leur temps dessus, mais alors, tu sais, c'est pas des jeux où t'as besoin de rester l'œil dessus. Tu vois, tu jettes un coup d'œil, t'attends que ton action se passe, etc. Mmh. Donc, c'est des jeux qui sont relativement discrets quand tu le sors de la poche, sous la table, machin. voilà, tu peux.
D'accord. Et donc, voilà. Toi, tu préfères éduquer à l'utilisation des mobiles plutôt que.
Ah ouais, c'est ça, parce que cette année, j'ai développé ça par des pratiques numériques et par des outils qu'on a qui sont fournis par l'académie. Et du coup, cette année, avec certaines classes, on a vu qu'un téléphone portable, ça pouvait servir aussi à travailler. Et dès que tu mets ça en place, alors évidemment, il y a des débordements que tu dois très très vite. Très très vite cadré, mais dès que tu mets ça en place, mais ça marche du feu de Dieu, quoi.
C'est-à-dire, vous faites quel genre de choses?
Alors moi principalement de la photographie, parce que art plastique, parce que tout ça. On a un ENT, environnement numérique de travail. Les élèves ont chacun un compte et quand tu leur donnes un travail, ils peuvent te le rendre via ce biais. Et cet ENT est fait de manière à ce qu'il soit beaucoup plus pratique à utiliser sur device mobile que sur PC. Mmh. Et du coup, ils sont beaucoup plus efficaces là-dessus. Ils le sentent tout de suite. Et c'est dommage qu'on soit bridé. Et d'autant plus avec le gouvernement actuel qui veut interdire tout simplement la présence du téléphone portable au collège. Donc, on verra bien ce que ça donne tout ça. Mais tout ce qui est, pour en revenir au sujet original, tout ce qui est phénomène d'addiction, en fait, on l'a pas vraiment. On l'a pas vraiment parce que la majorité des élèves ont bien compris et il n'y a pas ce phénomène de je peux pas me passer de attends parce que là j'ai mon loot qui va s'ouvrir dans une demi-heure, il faut que je le regarde, enfin voilà, il y a pas
c'est vrai,
ce système
là, en fait. Enfin, c'est-à-dire que l'image qu'on a d'eux, ils sont tous sur Snapchat pendant les cours, enfin les cours se passent, moi j'imagine, en vieux con, comme tu le suggérais, qu'ils passent leur temps sur Snapchat, effectivement, à se parler les uns les autres. On arrive à faire des cours est-ce que les élèves d'eux-mêmes vont se dire « bon, je vais mettre mon téléphone de côté pour le moment et on verra plus tard, quoi ».
Non, ça c'est quand tu t'approches d'eux. Quand tu t'approches d'eux, ils mettent leur téléphone de côté. Oui, mais d'accord. Non, mais enfin.
Ah là là, je suis content de pas être prof. mais aujourd'hui particulièrement, quoi.
C'est pas tant un problème que ça parce que, pour la plupart, encore au collège, ils maîtrisent pas l'art de dissimuler ce qu'ils font, tu vois. Donc ils se font très vite voir. Mais après, on n'est pas dupes. On sait qu'ils le font. On essaye d'être vigilant. Mais quand ils se font choper, tu sais, c'est plus ah bah ok, je me suis fait choper, bah tant pis pour moi. Et puis voilà, c'est pas grave. C'est assez rare. Ça m'est arrivé une seule fois. C'est assez rare quand on les chope et qu'on se dise maintenant c'est fini, les portables ils sont mis de côté. Ça m'est arrivé une fois qu'il y en ait qui se transforme en furie. Non mais c'est mon téléphone. Enfin voilà. Mais sinon non.
D'accord. Bon. Ok, bon bah écoute, donc pour toi, est-ce que ce genre de restrictions, là je sais qu'on sort du cadre de l'enseignement, mais juste toi en tant que papa et en tant que connaisseur
casquette.
De, oui, mais enfin connaisseur de la jeunesse, on va dire,
ouais.
Ce genre de restrictions, c'est cohérent
alors, c'est,
ou...
c'est, c'est bien, c'est pas bien. Moi, ça me désole toujours, ce genre de restriction, parce que ça veut dire que si ce genre de restriction existe, ça veut dire que les parents ne sont pas derrière. Il me semble important, au même titre que le cinéma, que la lecture, que la culture en général, d'accompagner et de dire, attends, ce bouquin là non,
ouais, c'est un peu démago, quoi, voilà, faire ça comme ça, de faire avec de la restriction,
voilà. Et du coup, ça dédouane les parents disent, oh bah c'est bon, c'est enfin, j'ai pas besoin de m'en occuper, il pourrait y avoir du porn le plus sale possible dedans, ils s'en foutent complètement, parce qu'ils savent que c'est limité une heure, donc c'est forcément quelque chose de bien. Tu vois, c'est énormément caricaturé, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de parents qui fonctionnent par ce principe-là, qui se disent que ok, c'est du jeu, donc c'est du jeu déjà de base. Jeu, ça peut pas être mal, juste ils vont passer un peu trop de temps dessus, bon bah voilà, et ils sont pas conscients de ce qui peut se cacher derrière un jeu. Et ensuite, si ils voient que l'éditeur met de la bonne volonté à limiter quelque chose, voilà, pourquoi,
ouais, c'est plus la peine de s'en
pourquoi
occuper,
vérifier
quoi.
Voilà, voilà.
Ok, bah écoute, merci pour ton avis d'expert sur tous ces sujets. J'ai appris des choses aujourd'hui. on va avancer avec des news un petit peu plus rapides, et notamment le devenir de IO Interactive, dont on se souvient que Square Enix s'en est séparé il y a quelques semaines de ça. Et on ne savait pas s'ils allaient avoir la propriété de Hitman, qui est leur gros succès de ces derniers mois. Et la franchise, donc, a été confirmée comme restant avec IO Interactive. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à faire des choses. Ils ont supprimé la protection anti-piratage des nouveaux, qui a assez mauvaise presse, il faut le dire. Ils ont mis le prologue en disposition gratuite. En fait, c'est la démo qui est disponible gratuitement sur Steam. C'est le prologue. C'est pas le premier niveau, hein, attention. J'ai entendu ici et là que c'était le premier niveau, le niveau de Paris, qui était disponible gratuitement. C'est pas le cas. C'est juste le prologue, qui est l'entraînement genre en simulation avec des acteurs, tout ça. Enfin bref, mais il est dispo gratuitement. Et donc c'est une bonne nouvelle pour IO Interactive. Hitman était vraiment un super succès de l'année dernière, et un succès relativement inattendu, parce que la série avait eu des errements, on va dire, et on n'était pas certain du modèle épisodique qu'ils avaient développé pour cette version. Et donc, bonne nouvelle pour eux, bonne nouvelle pour la franchise. Je pense que c'est assez inattendu de voir un résultat comme ça quand une grosse société se sépare d'une société qui possède. Là, je crois, j'ai l'impression que tout le monde est content, quoi.
Mmh, ouais, c'est chouette. Enfin, on dirait que il n'y a que des personnes pleines de bon sens qui se sont mis autour d'une table. Et c'est assez rare pour le souligner, en fait.
C'est ça, ouais. C'est vraiment généralement dans le monde, dans le jeu vidéo, peut-être souvent quand on a affaire à des grosses sociétés, on a tendance à se dire, oula, ils ont fait les choses n'importe comment. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Et logiquement, c'est pas comme ça. Enfin, on suit pas toujours la logique, même s'il y a une logique, souvent financière, derrière les décisions. On la comprend pas. Et là, en fait, tout fait sens. Donc, très bien. Bravo Square, bravo IO Interactive. J'espère que ça se passera bien pour eux, pour leur retour à l'indépendance. Blizzard et Switch ont signé un gros deal pour une grosse quantité d'événements e-sport sur Overwatch, StarCraft, Hearthstone, etc.
Blizzard et Twitch, Twitch.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit Switch, c'est Twitch.
Oui, non, j'aimerais bien. Non, effectivement, avec Twitch, donc ils vont streamer de manière exclusive une grosse quantité de ces événements e-sport. Pas tous les événements e-sport de Blizzard, mais une grosse quantité. C'est intéressant à voir, parce que Blizzard avait travaillé un petit peu avec Facebook, ils avaient ils diffusaient sur YouTube, etc. Et là, donc, j'ai l'impression, moi, l'analyse que je fais, c'est que ils sont dit, c'est très gentil Facebook, etc., mais mine de rien, les gamers, ils sont sur Twitch, donc les événements qui sont peut-être pas tous nos événements principaux, mais des événements, on va dire, peut-être intermédiaires, on a intérêt à les mettre sur Switch, parce que c'est là que sont les gamers, et c'est là qu'ils vont aller regarder, et c'est là qu'on aura le plus d'opportunités de récupérer des gens. Donc,
de toute façon, quand tu vas sur la page d'accueil de Twitch, 95% du temps, le jeu qui est diffusé, c'est un jeu Blizzard.
Moi, je dirais pas 95% du temps. Il y a beaucoup de CSGO, de League of Legends, Dota.
Oui, mais ce qui est mis en avant sur la page d'accueil, enfin le stream, tu vois, qui est en train de passer. Alors c'est peut-être moi, hein, je sais pas, mais à 90-95% du temps, je tombe sur du Hearthstone, sur du Heroes, sur du Diablo. Mais
ah ouais. Écoute, tu dois tomber au bon moment parce que moi c'est pas le cas du tout. Hein.
D'accord. Bon.
moi je suis plutôt sur des gens. Bah le truc c'est qu'ils mettent souvent en avant des moments, des championnats ou des événements.
Oui, c'est vrai.
Et bon, en l'occurrence, en ce moment maintenant, c'est un Humble Bundle. C'est pas les Summer Games Done Quick maintenant? Bref, c'est Games Done Quick. Donc c'est particulier en ce moment, mais les événements, il y a tout le temps des événements League of Legends, des événements CS:GO, etc. Encore que maintenant des trucs Blizzard, il y en a peut-être plus, mais c'est les HGC qui seront concernés, WCS pour StarCraft 2, HGC pour Heroes of the Storm, HCT Hearthstone Championship Tour pour Hearthstone et Hearthstone Global Games. Donc c'est quand même une grosse partie des championnats, oui. Mais bon, c'est effectivement un deal qui est, à mon sens, j'ai un peu l'impression qu'ils se disent voilà, les gamers c'est Twitch, en tout cas pour le futur proche, et on va être là où ils sont, quoi, pour pousser leurs e-sports. Mais oui, bah écoute, si du coup maintenant t'auras plus d'occasions de voir, encore plus d'occasions de voir des jeux Blizzard sur Twitch. Et je pense que là c'est un deal financier. Mais c'est marrant, tu sais, j'ai du mal à savoir qui paye qui dans ce deal. Parce que je peux imaginer que, logiquement, ça devrait être Twitch qui paye Blizzard pour avoir l'exclusivité, parce que l'exclusivité, ça veut quand même dire quelque chose. Mais en même temps, ça pourrait être Blizzard qui paye Twitch pour avoir un placement, une mise en avant plus grande, une promotion plus grande, etc., etc.
Donc, puisque puisque dans le cité Prime Amazon, là t'as eu le gold loot sur Overwatch, donc c'est que Blizzard donne des trucs à Twitch, enfin à Twitch Amazon déjà.
Oui, peut-être, mais en même temps, il y a une exclusivité qui fait partie du deal. Donc peut-être que Twitch se dit bon, ils sont gentils Blizzard d'aller voir avec Facebook et YouTube et je sais pas qui, mais aujourd'hui c'est quand même. Alors si on regarde sur la page d'accueil de Twitch encore une fois, c'est pas forcément la peine d'aller regarder, mais il y a généralement 2, 3, 4 jeux Blizzard dans le top 10, top 15 des premiers jeux Twitch. Peut-être qu'ils se sont dit bon, il faudrait qu'on récupère le truc plutôt que de commencer à les laisser aller vers d'autres plateformes, que ça pourrait aider. Mais je sais pas, tu vois, tous les scénarios sont tout aussi cohérents. Que Blizzard se dise, il faut de la mise en avant et donc on va payer Twitch. Ou peut-être qu'il n'y a pas d'argent dans l'histoire et qu'ils se disent c'est gagnant-gagnant, donc il y a pas d'échange d'argent. Mais là pour donner une idée du top, c'est donc Games Done Quick en premier dans les featured games, les trucs que les gens regardent en ce moment. Il y a PUBG, PlayerUnknown Battleground en deuxième, League of Legends, Hearthstone, IRL, donc différents types de trucs, Overwatch, Dota, Heroes of the Storm, Darkest Dungeon, Counter-Strike, World of Warcraft, Grand Theft Auto. Donc quand même dans les, c'est les 12 premiers qui sont affichés, il y a 1, 2, 3, 4 jeux Blizzard. Ouais, c'est bien ça. Donc je sais pas. Je sais pas. Si quelqu'un a une information ou une idée, moi mes anciens collègues ne me disent rien. Donc si quelqu'un a une idée ou une logique de comment ça pourrait fonctionner, ou si quelqu'un sait, parce que vous savez comment ce genre de truc marche, bah n'hésitez pas à venir nous en toucher un mot. Oui, et entre parenthèses, ils ont changé un truc sur Hearthstone au niveau de la distribution des cartes. Les cartes légendaires seront toujours des cartes nouvelles. Si vous chopez une carte légendaire, ça sera toujours une nouvelle légendaire. Il y avait un petit peu de frustration qui était en train de monter à ces sujets dans la communauté de Hearthstone. Et entre parenthèses, il va aussi y avoir moins de duplication dans les cartes, enfin dans les loot box sur Overwatch, même si c'est moins important parce que c'est du.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du cosmétique, mais voilà. Donc, ils ont annoncé que bientôt, les légendaires seront plus dupliqués dans les paquets de cartes sur Hearthstone.
Et il n'y avait pas aussi une info comme quoi, sur la, à partir de la prochaine extension, il y aurait une légendaire garantie tous les 10 paquets
Alors, c'est sur les premiers 10 paquets que tu achètes, tu auras effectivement une légendaire garantie. Donc, sur les 10 premiers paquets de la nouvelle extension, il y aura une légendaire garantie. J'ai l'impression que les gens ont plus de, ont l'impression que c'est quelque chose de gros, mais ils se rendent pas bien compte à quel point il y a plein de cartes légendaires qui ne valent rien, en fait, dans ce jeu, tu sais. Il y a une carte sur deux, bah, elle est pas vraiment utilisable en mode, entre guillemets, si t'essayes de faire un bon deck, quoi. Donc, je pense que ça leur coûte pas grand chose, en fait, de faire ça. Mais, quand même, ça fait plaisir parce que mine de rien, pour la plupart des joueurs, pas les gens qui jouent énormément et qui cherchent une carte spécifique pour construire leur deck, bah pour la plupart des joueurs, ça fait quand même plaisir d'avoir un légendaire quand tu ouvres ton paquet. Et c'est vrai que si tu l'avais déjà, c'était un petit peu la déception, quoi.
Ouais, donc, ouais, clairement.
Quoi d'autre? Ubisoft vaut aujourd'hui plus cher qu'il y a une certaine époque et Vivendi a quand même beaucoup moins d'argent qu'il y a une certaine époque. Reuters a estimé que pour se payer ce dont ils ont besoin chez Ubisoft, Vivendi devrait dépenser 5,7 milliards d'euros. Pardon, excusez-moi, c'est décidément difficile. Donc ça leur coûterait 5,7 milliards d'euros, sachant que ils ont une trésorerie qui est beaucoup plus faible que ce que c'était en 2015 quand ils ont commencé à faire des mouvements vers Ubisoft et Gameloft. Leur trésorerie est passée de, selon l'article de Gamekult que je lis, de 6,4 milliards d'euros en décembre 2015 à 473 millions d'euros aujourd'hui, enfin en mars dernier, à la fin de leur bilan annuel. Et du coup, connaître tous les mécanismes financiers qui pourraient permettre à Vivendi, je sais pas, par exemple, d'emprunter beaucoup d'argent pour avoir une position dominante chez Ubisoft. Peut-être qu'il y a des mécanismes de ce genre-là, mais là, j'ai un peu l'impression que Ubisoft respire, d'autant plus que les frères Guillemot ont renforcé leur position, ils ont des accords avec les autres actionnaires, etc. Ils sont pas encore sortis du bois quant à cette OPA. Mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être en train de respirer un petit peu, quoi. Il faut noter que l'augmentation de la capitalisation boursière d'Ubisoft est notamment venue de la présentation qu'ils ont fait à l'E3, qui s'est hyper bien passée et qui a valorisé un petit peu leur action. Donc, pour le moment, ils gèrent. À voir comment ça va se passer d'ici à la fin de l'année, si les jeux se vendent bien et ont bonne presse. espérons que ça soit le cas, parce que si c'est pas le cas, ça pourrait refaire chuter l'action, mais...
Oui, parce que s'il se plante sur le assassin là qui va sortir Donc voilà, il y a de gros enjeux sur le Assassin Origin.
Ouais, ouais, tout à fait. Ça va sans doute être l'un de leurs gros trucs, mais ils sont quand même pas mal diversifiés. Il y a ne serait-ce que, enfin, Far Cry, etc. C'est des trucs qu'on connaît déjà, mais des trucs comme le Raving Rabbids, par exemple, je suis sûr qu'il va s'en vendre un pour chaque Switch qui s'est déjà vendu, et sans doute pour chaque, peut-être pas un pour un, mais une grosse quantité, et sans doute pour de nombreux Switch à venir. Donc rien que ça, c'était un bon calcul de diversification. Bethesda, on a dit un petit peu plus sur leur Creation Club, qui est en fait de la vente de mods. Et il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu sceptiques, et je pèse mes mots, par rapport à cette initiative. D'autant plus que quand ils ont essayé de faire une boutique de mods, il y avait eu énormément de réactions très négatives. C'était il y a 2 ans déjà? Un an?
Oula, oui, il y a un moment.
Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tout le monde considère comme acceptable dans ce genre de concept, même les gens qui sont un petit peu opposés à l'idée de la vente de mode, c'est que ils vont mettre en place en fait un contrôle qualité hyper poussé de ce genre des mods qui seront vendus dans leur Creation Club. On rappelle que ça touche à Fallout 4 et Skyrim. Et donc, il y aura avec ces mods une garantie qui fonctionne avec les autres mods, avec les extensions, qu'il n'y a pas de problème de bug, en tout cas de bug trop important. Ils le décrivent eux comme de l'outsourcing, donc une sorte de partie tierce qui travaillerait avec eux en collaboration, plutôt que de simples modes tels qu'on les connaît aujourd'hui, qu'on va payer. Donc dans ce contexte, moi déjà je suis pas forcément contre l'idée de faire des modes payants si c'est bien encadré, mais dans ce contexte, j'ai l'impression que c'est quand même le bon compromis, quoi. C'est genre, vrai contrôle qualité, Bethesda récupère une partie, le créateur récupère une partie, tout le monde y gagne, quoi. Et la part que récupère Bethesda... au-delà du fait, qui est parfois controversé, que eux ils fournissent la plateforme entre guillemets, donc le jeu, et donc sans le jeu le mode n'existerait pas, donc ils récupèrent une partie et c'est normal, c'est l'argument, moi j'y souscris, certains n'y souscrivent pas, mais au-delà de cet argument là là ils font effectivement un contrôle qualité qui justifie le fait qu'ils récupèrent une partie des sous, quoi.
Oui, parce que ce que des gens ne savent peut-être pas aussi, c'est que voilà, un mod c'est quelque chose qui est fait par 1, 2, 3 pélos dans son garage et c'est tout, quoi. Et donc parfois ça prend jusqu'à 1-2 années pour construire des choses. Enfin c'est plutôt assez sain que cette ou ces personnes qui ont passé autant de temps par passion, j'entends bien, hein. Mais de leur offrir quand même une rétribution pour
compensation.
De plus si c'est encadré comme il est dit là, quoi.
Ça c'est ce que je crois que la rémunération des créateurs de mode est pas vraiment mise en question. C'est plutôt la rémunération de Bethesda dans l'histoire qui provoque l'ire de la communauté.
Donc, mais si Bethesda n'est pas là, il n'y a pas le matériau de base.
C'est toute la question.
Voilà. Oui. S'il n'y a pas le matériau de base, à ce moment-là, on prend Unity, on prend l'Unreal Engine et puis on fait son truc. voilà.
C'est sûr. Mais là, je crois que effectivement, j'ai l'impression que ça conviendra même aux gens qui sont un petit peu ronchons dans la communauté avec ce type d'arrangement. Alors ensuite, on verra comment ça se passe dans la réalité, mais. Et à propos de mode, PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est donc le produit d'un développeur de mode qui avait fait, il avait fait ce mode plusieurs fois. C'est marrant parce que j'en discutais avec mon ami Turfster qui travaille chez les Yogscast, qui est président des Yogscast. On en parlait, on était aux États-Unis ensemble à la convention de podcasters. À Salt Lake City, et il me disait il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où est sorti, enfin qui se disent PUBG est sorti de nulle part, Et en fait, le truc, c'est que ce mode, on s'en, enfin, les gens qui étaient pas au cœur du truc s'en rendent pas forcément compte, mais PlayerUnknown, donc le nom du développeur qui travaille avec Bluehole aujourd'hui, en fait, il a développé son mode trois fois, quoi. Il était, chez, enfin, on se souvient de la version sur Arma, etc., qui avait différents noms, mais là, c'est un vrai un peaufinement de ce type de jeu, et c'est parce que il est il a vraiment l'habitude de ce genre de jeu et il connaît le développement du truc que le jeu est aussi bon. Donc et d'ailleurs bon, la news c'est pas ça, la news c'est que il passe les 4 millions de ventes, c'est toujours en early access mais quand même 4 millions de ventes, enfin c'est un succès assez invraisemblable quoi.
Ah moi ça m'étonne absolument pas. Je suis tombé dedans à force d'écouter les confrères de ZQSD.
Tu sais que j'ai toujours pas acheté, moi.
C'est
pas mon truc, mais.
Les jeux multijoueurs, c'est pas mon truc, mais du tout. Hein, je suis nul. À force d'en entendre parler, de dire oh, mais c'est bien. Donc voilà. Donc c'est pour le boulot. Hein, donc voilà. donc je l'achète d'autant qu'il est. Je crois qu'il y a une petite réduction en ce moment pour les soldes. Et en fait j'ai pas besoin. Enfin être nul, on s'en fout parce que alors pour ceux qui le savent pas encore, donc PlayerUnknown's Battleground, c'est un battle royale. Donc il y a 100 pélos sur une carte. Et il faut être celui qui reste. On part tout nu et on ramasse ce qu'on peut et on tue tout ce qu'on voit. Donc, voilà. Et t'as pas besoin.
C'est plus de la survie, en fait. C'est ça qu'il faut dire.
Voilà.
C'est
t'as pas survie. Besoin. T'as pas besoin d'être bon à un FPS. T'as pas besoin de. Voilà. Moi, je suis nul au FPS. Voilà. Mais par contre, je suis assez bon pour me planquer. Et du coup, tu peux la jouer. Très fine, tu peux la jouer stratégie, tu peux te cacher dans les buissons, tu peux, enfin voilà, faut te stuffer au départ, tu choisis ta zone de départ, t'es parachuté, donc tu choisis à peu près où tu atterris et t'essayes de pas atterrir là où il y en a d'autres et t'essayes de collecter un petit peu des armes, des munitions et ensuite de te la jouer tueur silencieux et ça j'aime bien. Alors qu'il y en a d'autres qui vont se la jouer hyper bourrin, qui vont ramasser la grosse mitraillette lourde et qui vont partir sur la carte en jeep et puis ils vont écraser tout le monde, machin. Enfin, t'as pas une façon de jouer et c'est ça, à mon sens, qui fait le succès de PlayerUnknown's, c'est que tu peux réussir si t'es pas bon en FPS, c'est pas grave, tu peux quand même réussir. Pour te dire, la troisième partie que j'ai jouée. J'ai fini deuxième. Il restait plus que nous deux. J'ai perdu au duel final. Mais voilà, j'ai fini deuxième sur ma troisième partie parce que j'ai réussi à bien me planquer. J'ai réussi à être là au bon moment. J'ai réussi à pas me faire voir là quand il fallait pas et à tirer sur les gens quand il fallait leur tirer dessus.
Mais j'ai l'impression que surtout l'autre gros aspect attirant, enfin qui fait le succès du truc, c'est que c'est relativement arcade, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de jeux de survie, machin, mais tous les jeux de survie de ce genre qui sont venus avant, c'est des trucs où t'avais un personnage, tu te déloguais, ouais. Tu te reloguais, machin, mais t'étais là, tu gardais le même personnage pendant des jours, enfin c'était oui, plus type ouais. MMO, quoi. Là, ouais. C'est beaucoup plus type MOBA, c'est-à-dire que chaque partie est différente, tu perds, tu reviens sur une autre partie ensuite, mais ta partie s'étale sur une demi-heure ou ce que c'est, mais c'est pas le même perso que tu gardes.
Une demi-heure maximum quand t'arrives. Une demi-heure quand t'arrives au bout, quand t'arrives au bout du temps. Mais ouais, c'est du matchmaking. Clairement, c'est du matchmaking.
Bon, bah écoute, peut-être à tester. J'ai ma souris qui navigue sur le bouton acheter là, mais bon.
Ouais,
on va voir. Il faut un moment parce que je peux pas y avoir joué quoi. Tu vois, c'est le genre de phénomène où
j'ai du mal à revenir sur Overwatch, tu vois, par exemple à cause de ça. On n'est pas du tout dans le même registre hein, mais le fun est là.
Tu veux dire à cause de quoi?
De ce truc de tiens, je sais pas quoi faire, hop, je vais me faire une partie. Et tu trouves tout de suite une partie, tu cliques sur le bouton matchmaking, dans les 3 secondes, t'as une partie. Et donc tu sais que tu vas pouvoir jouer tout de suite.
Temps d'attente sur Overwatch, c'est pas le plus gros problème.
Non,
c'est ça ma question en fait. Tu dis ouais, j'ai du mal à revenir sur Overwatch pour ça. Mais c'est quoi ce facteur qui fait que PlayerUnknown's Battleground te plaît plus?
Alors déjà il y a la nouveauté parce que voilà, mais enfin je te dis, on n'est pas du tout sur le même registre. Sur Overwatch t'as du fun, t'as du machin, c'est rigolo. Là c'est d'autres feelings. Donc si tu, enfin, moi j'aime bien ce shoot d'adrénaline, de se cacher, de tu entends les tirs, donc hop, il, enfin voilà. Donc si t'es plus dans ce feeling là où t'aimes bien te faire peur, t'aimes bien une petite dose de stress, etc. Donc voilà, moi en ce moment j'ai plus d'appétence à revenir sur Battlegrounds que sur Overwatch.
Est-ce que c'est un petit peu le genre, est-ce que ça serait genre Metal Gear Solid, le jeu d'arcade? Ou non, c'est quand même pas à ce point.
Non, parce que la simulation est quand même un peu plus poussée. Ça va jusqu'à, enfin, quand tu tires, il faut que tu fasses gaffe parce que quand tu tires, tu sais que les autres vont t'entendre. Et comme, enfin, le son est spatialisé, donc.
Bah, c'est un peu Metal Gear Solid, quoi. C'est du Metal Gear Solid. Quand tu tires, tu fais attention aussi parce que.
Ouais, non mais. Tu sais que ça a beaucoup moins de répercussions.
Parce que c'est pas des
tirs, voilà.
Parce que c'est l'ordinateur et après tu vas te planquer,
voilà,
et plus personne
ça.
Va. Non, bien sûr, mais je veux dire, je me demande si il faudra que j'y joue, il faudra que je teste moi-même, mais je me demande si justement il y a pas un petit peu cet aspect. Imaginons un Metal Gear Solid multiplayer. Enfin, je dis Metal Gear, non, c'est juste un jeu de stealth. En fait, ma question c'était,
oui, voilà, c'est ça.
Est-ce que c'est du stealth, est-ce que c'est du furtif? Ou est-ce que c'est genre, tu peux jouer comme tu veux, tu peux être furtif si tu veux, tu peux être blast si tu veux, ou alors si tu sors au milieu de rien, tout de suite tu te fais exploser. Est-ce qu'il faut forcément être un peu furtif?
Faut forcément être un peu furtif. Il faut avoir quelques notions de stratégie parce que c'est effectivement si tu te ramènes au milieu de la grande plaine, tu fais comme la maman de Bambi, hein.
D'accord. Bon, écoute, il faut effectivement que je teste au moins ce jeu. Là, ça devient un impératif professionnel, quoi. Et bon, donc la news, si vous l'avez raté au milieu de cette longue discussion, c'est qu'il passe les 4 millions de ventes. Tiens, une question à toi qui connais les jeunes. Est-ce que tu sais qui est Markiplier?
Absolument pas.
Ah, damned.
Absolument
bon, écoute.
Non, je
le mentionne parce que comme toi, je ne le connaissais pas et il se trouve qu'il a été élu l'influenceur gamer le plus grand influenceur gamer du monde. Alors en l'occurrence, il a une chaîne YouTube, mais c'est marrant parce que j'en avais jamais entendu parler.
Il est américain.
Oui. Mais oui, mais enfin bon, c'est quand
mais
même.
Parce que tu vois, enfin moi, tu me dis connaisseur de jeunes machin, dans un collège, quand c'est pas français, c'est très rare que ce soit connu.
D'accord, oui, effectivement. Ouais. Bon, en l'occurrence, c'est Forbes qui l'a élu. Alors c'est quoi? The World Most Influential Gamer. PewDiePie est numéro 2. Et il mentionne aussi dans la liste OMG, It's Firefox et Jacksepticeye. Et je connaissais Jacksepticeye de nom et PewDiePie évidemment, mais OMG machin et Markiplier, je les connais pas du tout. Et pourtant, moi, je suis un petit peu l'actualité américaine. Mais voilà. Et donc du coup, je suis allé regarder un petit peu. Et bon. C'est un peu du PewDiePie avec un peu moins de cris et de jeux qui font peur, ou en tout cas c'est ce qu'il faisait à l'époque PewDiePie, mais c'est vraiment du let's play, quoi. Et c'est marrant parce que il y a pas du tout de c'est pas des tests, c'est du let's play, voilà, c'est tout ce qu'il fait. Et enfin bon, c'est pas vraiment mon truc, quoi.
Ok. Mais
il en faut pour tout le monde, hein. Mais ouais, c'est pas. Je comprends pas bien ce genre de truc, en fait. C'est là que je me rends compte que je comprends pas. Mais je me demande, c'est pas les jeunes, en fait. C'est pas que c'est des trucs de jeunes, genre ils ont 18-20 ans. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, je comprends pas leur musique. C'est pas ça. Le truc, et je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des trucs qui plaisent aux enfants, tu vois. C'est pas que c'est des trucs, je comprends pas ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est que forcément je suis pas la cible, parce que c'est des enfants de 10-12 ans qui regardent ce genre de trucs. Et je me trompe peut-être, mais c'est vraiment mon impression, et d'après ce que je connais du succès des YouTubers francophones, je sais, pour le coup, là, très clairement, que leur public, c'est les enfants. c'est de 8 à 13 ans. Parfois un petit peu plus, mais le cœur de cible, c'est ça.
Oui, oui, non, mais c'est... Donc, oui, oui. Ça, Squeezie, ils connaissent, ouais.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, peut-être que plutôt que de me dire « Ah mon Dieu, je ne sais plus ce que font les jeunes aujourd'hui », bah oui, c'est juste que c'est pas les jeunes, c'est des trucs, c'est des programmes pour enfants. Et vu comme ça, bah peut-être que c'est pas si mal, quoi. Parce que c'est un petit peu plus intelligent que... enfin bon, bref, c'est un autre débat complètement. je me dis que ce genre de truc, c'est pas... Il y a des gens qui diront, mais c'est débilifiant, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Moi, à 10 ans, je me souviens plus exactement ce que je regardais, mais je suis pas sûr que c'était forcément de meilleure qualité, quoi. Mais bon.
Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde, mais enfin déjà PewDiePie, j'ai énormément de mal, donc.
Ouais, bah mais c'est le même problème, hein. C'est pas vraiment pour nous, quoi.
Ouais.
C'est pas pour notre tranche d'âge, quoi. Mais pas. Enfin bon, bref. Bref. News suivante. On parlait un petit peu du gouvernement actuel tout à l'heure. La réforme du président, enfin de Macron, inclurait un CDI de projet. Qui pourrait être plus particulièrement consacré, enfin spécifiquement designé pour le monde de la tech et le monde du jeu vidéo. C'est pour ça que j'en parle. De quoi s'agit-il en fait? C'est un entre le CDI et le CDD, c'est-à-dire que vous engagez une personne pour la durée d'un projet. Il n'y a pas une fin spécifique, donc c'est pas un CDD, c'est un contrat à durée qui est effectivement pas déterminé, donc indéterminé, mais qui s'arrête quand le projet est terminé. C'est des trucs qui existent dans d'autres industries, notamment la construction, enfin l'immobilier, ce genre de trucs, si je ne me trompe pas. Et voilà, alors c'est un truc qui est... Visiblement, je suis toujours hésitant à dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que je suis sûr qu'en fonction de vos colorations politiques, vous aurez un avis dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est sûr, c'est que l'industrie semble dire que ça va les aider, que ça soit pour la tech ou pour le jeu vidéo. Donc maintenant, je m'abstiens. J'ai des endroits où je parle de politique. Je vais m'abstenir de porter un jugement ici dans cette émission parce que c'est pas le sujet. Mais c'est un projet qui est en cours de développement et dont l'industrie dit c'est un truc dont ils ont. Alors je sais pas si on peut dire qu'ils en ont besoin, mais dont ils auront l'utilité. Donc
oui, alors. Pour m'être penché un petit peu sur la question, il y a un petit moment, donc c'est plus très frais dans ma tête. Mais en fait, les studios de développement ont deux fonctionnements possibles. Soit ils produisent une œuvre de collaboration, soit ils font un projet collaboratif. Alors, les termes sont peut-être plus très exacts, mais enfin, il y avait une sorte de vide dans la façon dont les ressources humaines pouvaient être employées. Et ce type de contrat, en fait, remplit le vide parce que soit donc c'est une œuvre collective, donc ça appartient un petit peu à tout le monde, donc tu dois faire des contrats de travail qui vont dans ce sens-là. Donc ça a à voir aussi avec la rémunération, parce que selon comment tu fonctionnes, soit t'es payé à la vente, soit t'es payé au contrat, soit enfin, et du coup ça clarifie un petit peu les choses, parce que ça risque de devenir le contrat de travail qui va être le plus utilisé pour embaucher les gens et pour rémunérer correctement. Enfin, alors correctement, c'est pas le montant dont je parle, mais correctement par rapport au travail effectué les gens.
Ouais, bah c'est effectivement l'idée, comme dans certaines industries, effectivement il y a ce dans la tech et dans le jeu vidéo, quand tu travailles sur un jeu, bah ça dure un certain temps, et puis le studio, s'il a pas un jeu qui arrive à la suite, c'est problématique pour garder les équipes, parce que tu dois grossir l'équipe énormément pour un projet, et puis quand le projet est terminé, ben voilà, le projet est terminé. Les critiques sont que, évidemment, ça va permettre aux sociétés de, entre guillemets, renvoyer tout le monde une fois que le projet est terminé et les gens se retrouvent à la rue. C'est là quand on peint les choses un petit peu en noir et quand on les peint en plus rose. L'idée, c'est que du coup, les sociétés hésitent moins à engager en masse et que les développeurs ou les artistes peuvent naviguer de projet en projet beaucoup plus facilement. Bon, moi ayant été intermittent du spectacle pendant quelques années, je comprends le fonctionnement du passage de projet en projet. Ensuite, la question, c'est comment se passe la protection sociale quand t'es entre deux projets, et c'est une des discussions qui est active sur le sujet des contrats de projet.
Mais voilà, parce que quand tu dis quand on voit la chose de façon noire, c'est voilà, le projet est fini, on se retrouve sans rien. Mais faut savoir que c'est pas un abus. La plupart des studios de développement, et plus le studio de développement est petit, plus ils fonctionnent comme ça, parce qu'ils ont pas les moyens d'avoir une équipe pérenne, et donc ils ne peuvent pas vivre autrement. C'est pas de l'abus de contrat, en fait.
Et puis peut-être que les studios qui ont des il y a tellement de plus en plus de DLC que les gens peuvent se retrouver à naviguer plus facilement, quoi. Bon, donc voilà, je pourrais parler de ces histoires très très longtemps. Vous me sentez hésitant. C'est parce que ça dérive plus sur la politique que sur le jeu vidéo. Mais vraiment, la chose que je voulais mettre en avant, c'était la création de ce nouveau type de contrat qui pourrait avoir une influence sur l'industrie dans son ensemble. Et puis pour conclure cet épisode, je me disais, c'est l'été, c'est la période des soldes Steam. Peut-être que ça serait l'occasion pour nous tous, enfin nous deux, de suggérer quelques jeux à surveiller pour les soldes. Certains auditeurs qui se disent, je sais pas trop quoi acheter en ce moment, même si je suis pas certain que ça soit forcément la tendance, je sais pas trop quoi acheter, mais voilà, peut-être mettre en avant quelques trucs. Toi, t'as des jeux où tu te dis oui, cela, s'il est en solde, ça vaut le coup, ou des trucs à surveiller?
Alors oui, j'ai ceux que j'ai achetés et ceux que je regarde du coin de l'œil. Mmh. Dans ceux que j'ai achetés, il y a pas très très longtemps est arrivé sur Steam, je crois que t'en avais parlé, Bayonetta. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait. Voilà, bonne affaire. Alors c'est pas une grosse réduc, hein, mais voilà, elle est là. Donc alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Il me semble que j'ai acheté Hyperlight Drifter, pareil. Alors ça, c'est un petit jeu indé qui, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est en solde à 10€.
C'est quel genre? Explique quand même un tout petit peu.
Oula, c'est du pixel art, c'est un jeu d'aventure vu du dessus.
Dis-moi.
En fait, faut aller sur Steam et il faut voir la bande-annonce. C'est difficile à pitcher comme ça. Mais c'est hyper intéressant. Tu vois qu'il y a une patte graphique très très prononcée. C'est pas du pixel art rétro, hein. C'est du vrai pixel art, du vrai beau pixel art. Et voilà, c'est un gameplay aux petits oignons. Enfin, je l'ai pas fait encore beaucoup parce que c'était les soldes. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ouais. Mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un ovni, mais on navigue quelque part entre le jeu d'aventure et l'ovni. C'est de l'indé, quoi.
Ok. Et il est à 50% en ce moment, donc.
Ouais, voilà. Ouais, donc ça vaut pas mal le coup. Pour ceux que ça amuse de, alors pour ceux qui aiment un peu le RPG et que ça amuse d'avoir un éditeur de personnages très 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 poussé, il y a Black Desert Online qui vaut pas grand chose, qui a 8€. Le jeu, je l'ai pas testé, j'ai juste fait le personnage
et d'accord.
Le personnage que j'arrive à faire très ressemblant par rapport à moi-même.
D'accord.
Voilà, je me suis beaucoup amusé à ça. Après, le jeu doit peut-être être très amusant aussi. T'en avais parlé aussi la semaine dernière, enfin la fois dernière avec JK, c'est What Remains of Edith Finch qui mm-hmm. est en solde à 15 euros. Qui voilà. Enfin, je crois qu'il est en solde. Je sais même plus si je crois. Sinon, bah, y a Dead Cells à ne pas manquer.
Bah justement, tiens, je vais peut-être puisque ouais. je te sens. Ah tiens, on n'a même pas parlé du nécromancien dans Diablo. Bon,
oui, mais moi grave. Je suis pas trop Diablo donc.
Oui, bon, écoute, c'est pas grave, effectivement. J'ai commencé.
Il y a Battlegrounds.
Ah, hein. Tu sillonnes un peu. Est-ce que tu peux débrancher et rebrancher ton micro?
Oui.
Donc, oui, bon, le Nécro est sorti. Il coûte 15 euros sur Diablo 3 et il y a des gens qui disent que c'est trop cher et des gens qui disent que ça va. Donc, mon avis sur la chose un petit peu rapidement. Je pense que si vous jouez à Diablo depuis, si vous jouez régulièrement de temps en temps depuis sa sortie, moi je pense que ça vous amusera de jouer de Nécro. Si vous ne jouez pas et que vous en aviez marre de Diablo, je pense que c'est pas pour vous. Mais moi j'y prends beaucoup de plaisir et le Nécro est une classe hyper sympa. Et le fait d'exploser des trucs, enfin le je sais plus comment ça s'appelle en français, mais le Corpse Explosion, c'est d'une satisfaction sans nom. mais bon, donc pour revenir à Steam, oui, tu parlais de Dead Cells. J'ai acheté Dead Cells. C'est un roguelike en pixel art très joli. Enfin, entre le roguelite et le Metroidvania, le roguelike et le Metroidvania, assez sympa à explorer, on va dire. Et puis il était en solde, mais c'était pas une grosse réduction parce qu'il est relativement récent, encore en early access. Hollow Knight, le jeu préféré de notre ami Exerve, qui est une sorte de Metroidvania, très artistiquement très intéressant. Donc j'ai joué un petit peu, j'aurai peut-être l'occasion d'en discuter avec Exerve à un moment. Donc à surveiller effectivement, très très beau, et très beau graphiquement et dans la direction artistique en général. Moi je suis pas sûr que ça soit un jeu que je vais auquel je vais énormément jouer, mais j'en reconnais absolument les qualités artistiques. Quoi d'autre, il y a Superhot peut-être à récupérer, que moi j'ai enfin fini par acheter justement pendant les soldes, parce que c'est l'un des phénomènes de l'année dernière. Et puis un truc qui intéressera peut-être certains d'entre vous, que j'avais depuis longtemps mais auquel j'avais pas vraiment joué, c'est Wolfenstein The New Order, le jeu de c'est quoi, 2014. C'est, pardon ?
Oui, je pense que tu es à peu près dans le bon, ouais. 2014.
À peu près, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait, moi, il y avait des gens qui disaient qu'il était pas mal, je l'avais lancé et j'avais bloqué sur le premier niveau parce que le premier niveau est hyper classique, en fait. C'est la guerre, c'est machin, bon, t'arrives, Deuxième Guerre mondiale, tu tues des nazis, ok, super, ils ont des chiens robots, mais bon, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait... Après ce premier niveau d'introduction, l'univers change énormément. Et le jeu en lui-même est pas mécaniquement incroyable, mais l'ambiance est quand même assez sympa. Et du coup, moi, j'y ai joué... En fait, suite à la présentation de Bethesda de l'E3, je me suis dit « Ah tiens, il faudrait quand même que je rejoue à New Order, parce que The New Colossus avait l'air vraiment intéressant. » Et du coup, je m'y suis replongé. Là, je dois être à la moitié à peu près. Et j'avoue qu'il est quand même très, beaucoup, bien meilleur que ce que je pensais à l'origine, quand je m'étais arrêté au tout début. Donc voilà, c'est peut-être un truc à garder à l'esprit. S'il est pas trop cher pendant les soldes, j'ai même pas s'il est en solde. Moi, je l'avais... depuis un moment, le Wolfenstein The New Order, il est à 10 euros. Donc, j'ai même pas l'impression que ça soit les soldes, en fait. Mais c'est juste qu'il est pas très cher. Et je pense que si vous aimez bien ce genre de truc, ça peut valoir le coup, quoi. Ah si, il est effectivement en solde à 50%. Donc, et les soldes se terminent bientôt quand même. Donc, c'est ouais, quelques jours. Ah mais même pas. Là je vois ces soldes là, c'est dans un jour et demi. Donc enfin dans deux jours. Donc
vous se dépêchez.
Traînez pas quoi.
Si, alors je vais en rajouter un que peu de gens alors soit connaissent soit n'osent pas parler. C'est un jeu donc il est à moins 50%, il coûte que 2,50€. C'est un jeu de brawl, donc où on se réunit tous autour d'un écran, que ce soit en local ou en ligne, pour enfin dans des arènes et des combats effrénés. Ça s'appelle Genital Jousting
et d'accord.
Et donc on est une bite, hein, et le but c'est d'essayer alors il y a plusieurs types de jeux, hein, mais le but principal c'est d'essayer de rentrer dans le derrière de l'autre. Et donc ça se joue à 4 ou à jusqu'à 8 des fois, je crois. Et c'est très très rigolo pour une soirée, qu'elle soit arrosée ou pas. On passe franchement d'excellents moments sur ce jeu. On habille, enfin, il y a des skins, hein, on peut habiller son zizi avec des colliers de perles. Enfin bah, voilà, c'est très très rigolo.
Et
voilà, ça coûte pas cher, c'est dommage de s'en priver. On peut s'envoler vers les étoiles, on peut faire des courses au milieu des cactus.
D'accord. J'en avais entendu parler et j'avais jamais été regardé de quoi il s'agissait exactement. C'est très très explicite, hein.
Ah oui, c'est très explicite, mais c'est très rigolo. Et tu vois, je me demande quand même si finalement c'est si choquant que ça, parce que c'est assez rigolo, les formes sont très très géométriques quand même finalement. Je me demande si c'est si dérangeant que ça, quoi.
Bah, dérangeant, oui et non. Mais enfin, c'est clairement ce que tu as décrit. C'est pas stylisé. Enfin, c'est stylisé, oui. C'est pas des photos. Mais enfin, c'est clairement, tu comprends très bien ce qui se passe, quoi.
Oui, voilà. Et les testicules, ça peut être des oreilles de Mickey, quoi. Voilà. Mais
non, mais justement, c'est pas les testicules, c'est pas du tout des oreilles de Mickey, c'est des vrais. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Encore que, bah, on en parle, donc on en parle.
Oui, voilà.
Mais oui, les bites, c'est des bites. Et puis tu rentres, tu dis dans le derrière de l'autre, c'est le derrière de la bite entre les couilles.
Voilà,
et c'est effectivement, bah, il y a une sorte de petite pénétration, il y a un petit peu de
projection de particules blanches.
Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc oui, c'est particulier, oui.
Ouais, mais ça reste hyper fun.
Mais le
fun,
jeu est fun, quoi, c'est ce que tu
dis.
Ouais,
c'est pas graveleux
Non, c'est sûr.
Voilà, tu vois.
Comment dire, c'est ce que tu dis, c'est que c'est marrant à jouer à plusieurs, c'est un bon party game, quoi.
Ah ouais, complètement.
D'accord, très bien.
Et pour ce prix-là, c'est dommage de s'en passer, franchement.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez trouvé un petit peu d'inspiration dans toutes ces recommandations. Et ça nous amène à la fin de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver, cher Jean, si on veut un petit peu plus de tes productions podcastiques?
Exactement, on peut me retrouver donc sur le site papapodcast.fr. Là, on vient de sortir samedi dernier notre 45e épisode où on parle de The Witness et The Division, et dans lequel je reçois une invitée qui est Sophie Dast, qui est artiste, enseignante et chercheuse. Donc elle fait des choses artistiques autour du jeu vidéo. C'est hyper intéressant. Donc ça c'est Papa à quoi tu joues, et on a aussi un autre podcast qui sort tous les 15 du mois qui est Papa à quoi on joue. Qui là va vous donner, à la manière de Positron, tous des bons plans pour jouer avec, pour jouer en famille avec les enfants.
Très bien, merci beaucoup. Et Papa à quoi tu joues sans S sur Twitter.
Voilà.
Les liens sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr. Et vous retrouvez sur French Spin d'autres émissions, comme notamment le Rendez-vous Tech. Et si vous voulez soutenir un petit peu l'émission, bah vous pouvez aller sur iTunes et laisser un commentaire ou des notes. Ça nous file un petit coup de main, donc n'hésitez pas à le faire si vous appréciez l'émission. Et bah partager simplement l'émission avec vos amis, leur dire « Hey, t'aimes bien les jeux vidéo, est-ce que t'écoutes le rendez-vous jeu ?» Eh bien, tu devrais. Voilà, je vous fais un petit peu de role-playing, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode qui était un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve, alors je sais pas si ça sera exactement dans 15 jours, parce que je vais essayer de prendre un petit peu de vacances. Il y a ma maman qui vient passer un moment en Finlande, donc on va voir si j'aurai le temps de caser un épisode à ce moment, mais je suis pas sûr. Enfin, on verra. Quoi qu'il en soit,
au pire, tu peux faire un épisode avec ta maman.
Ah, ça serait une bonne idée. je vais lui faire essayer des jeux intéressants qu'on a recommandés aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle sera super intriguée, tu vois. Mais bon, dans tous les cas, on viendra très bientôt. Et puis, vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter comme toujours. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.